Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée au champagne. En 2015, les vins et spiritueux ont grillé la politesse aux parfums et cosmétiques dans la balance commerciale française. On parle même de record historique avec un chiffre d'affaires pour les exportations d'alcool de 11,7 milliards d'euros. Hors effet de change, avec en particulier la dépréciation de l'euro face au dollar, au yen et à la livre sterling, la progression dépasse les 5% par rapport à 2014. Un record qui est à mettre au crédit des deux locomotives que sont le champagne et le cognac, et des deux marchés clés que sont les États-Unis et la Chine, la palme de l'exportation revenant tout de même au champagne. Mais la concurrence n'en est pas moins là, qui fait perdre à la France des parts de marché, même si plusieurs milliers d'hectares de nouvelles vignes vont pouvoir être plantées après autorisation de Bruxelles. Les vins pétillants, concurrents du champagne, gagnent le monde entier. Conséquence notamment de la crise de 2008, une grande partie de la planète produit désormais des vins effervescents, de la terre de feu aux États-Unis, de l'Afrique du Sud à la Russie, sans oublier la Chine et l'Inde. Le champagne, c'est 10% du marché mondial en volume, mais il est talonné, le champagne, par le Prosecco italien, lequel n'est pas non plus tout seul sur le marché. Y a-t-il de la place pour tout le monde? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Claire Desbois-Thibault, historienne et exploitante viticole, auteure de l'extraordinaire aventure du champagne Mouette et Chandon, une histoire de famille, parue aux presses universitaires de France, et co-auteure de Le Champagne, une histoire franco-allemande aux presses universitaires Paris-Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
Et Olivier Gergaud, économiste, professeur à Kedge Business School sur le campus de Bordeaux, directeur du Wine and Hospitality Research Center et membre de l'IEP Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
En 2015, la Champagne décrochait la précieuse inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que cela signifie pour la région et quel changement peut-on en attendre, Claire Desbois-Thibault?
Je pense que déjà, cette inscription est avant tout une reconnaissance de ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle de la Champagne. C'est une reconnaissance de son histoire, des hommes et des femmes qui ont travaillé à la notoriété du champagne. C'est aussi la reconnaissance d'un travail, de l'innovation qui a toujours parcouru ou accompagné l'histoire du champagne. C'est aussi la reconnaissance de la construction d'un outil agro-industriel qui existe toujours. Et c'est ça l'importance d'une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est sclérosé, c'est effectivement une activité qui est toujours en fonction.
En action. Olivier Gergaud ?
Oui, bah c'est effectivement une très très bonne chose, une reconnaissance qui vient un peu tardivement à mon avis, parce que les atouts de la Champagne qui ont été reconnus par l'UNESCO sont relativement évidents, et je crois que ça vient à un point nommé pour une région qui a besoin de se développer économiquement, qui est déjà évidemment très développée avec l'industrie du champagne, mais qui, avec cette inscription, aura probablement beaucoup plus de facilité pour développer l'œnotourisme, qui est dans des régions comme la Champagne, mais aussi dans d'autres régions françaises, un petit peu en retard par rapport à ce qui se passe à l'étranger.
Alors, c'est une reconnaissance pour la région. Est-ce que pour le champagne lui-même, la boisson, il y a un impact de cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, Claire Desbois-Thibault?
Je pense que ça pose aussi certaines exigences, c'est-à-dire que le champagne a vu la construction de sa renommée sur le fait que c'était un vin de qualité, un vin qui a demandé beaucoup d'innovation, de recherche, et ça depuis le XVIIIe siècle. C'est un de ses atouts, mais c'est aussi ce qui doit maintenir l'avenir. C'est vraiment par le maintien de la qualité, le maintien de la... En champagne, on appelle l'excellence.
Olivier Gergaud, vous souhaitez rajouter quelque chose ou on aborde les questions un peu historiques et...
Juste un petit élément, effectivement, cette inscription, c'est un bon coup de pub pour la région, donc certainement qu'il y aura un impact aussi sur les ventes de champagne, qu'il est pour l'instant difficile d'évaluer parce qu'on est encore moins d'un an après l'inscription, ce qui veut dire qu'effectivement, ce pourrait être un sujet d'étude intéressant de voir l'impact de cette inscription aussi sur les ventes de champagne. Mais il y aura certainement effectivement un effet. Mais je suis tout à fait d'accord avec Claire Desbois-Thibault que, effectivement, on est aussi probablement maintenant beaucoup plus attendue qu'auparavant.
Mmh. Claire Desbois-Thibault, un peu d'histoire. Le champagne, c'est le vin des sacres depuis la fin du XVIIIe siècle. Et au fil des siècles, le champagne a finalement beaucoup élargi son assiette de consommateurs. On l'abordera. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et surtout, comment expliquer le succès d'un vin de renommée internationale? Est-ce que, au-delà de cela, l'histoire du champagne a toujours été une sorte de success story?
Alors, c'est quand même une des caractéristiques assez étonnantes et surprenantes de l'histoire du champagne, c'est que ce vin a d'abord eu une reconnaissance internationale, un succès à l'export, je parle au niveau historique, hein, avant d'avoir une implantation sur le marché national. Ça, c'est quand même une évolution qui n'est pas celle des autres vignobles, où c'est la connaissance du produit sur le territoire national qui fait qu'on va ensuite exporter. L'explication de ce phénomène, c'est qu'en fait, au XVIIIe siècle, le champagne est un vin difficile à produire parce qu'on ne maîtrise pas l'élaboration. Donc c'est un vin qui est forcément rare, qui est forcément cher à produire. Et donc les consommateurs sont forcément réduits sur le marché français, dans le royaume. Donc inévitablement, les négociants ont cherché leur clientèle au-delà des frontières.
Et vers qui se sont-ils tournés, ces négociants, Claire Desbois-Thibault?
Alors, tout d'abord, vers les pays germaniques. C'est quand même juste de l'autre côté du Rhin, donc c'était facile. Après, on sait que Madame Clicquot s'est lancée sur le marché russe. Et puis très vite, quand même, le marché anglais a été l'élément moteur, avec notamment des exigences d'une clientèle d'amateurs qui a fait changer le champagne, puisque d'un vin extrêmement sucré, les Anglais, au milieu du 19e siècle, ont demandé aux négociants de produire des vins qui étaient plus secs, parce qu'ils avaient pris l'habitude de consommer du champagne tout au long du repas. Donc il fallait adapter mets et vins. Donc on voit bien là aussi que la demande a quand même un impact important sur l'offre.
Je retiens ce que vous disiez à l'instant, qui est particulièrement intéressant. Il a fallu attendre finalement que ce champagne, il ne s'est pas appelé champagne peut-être trop tout de suite, je ne sais pas, en tout cas, qu'il ait eu le succès qu'il a eu en Allemagne, en Angleterre, en Russie, avant que la France le valorise elle-même.
Oui, effectivement, c'est comme ça que ça s'est produit. Le champagne était quand même un vin qui était réservé à une élite sociale. Et donc, ça a donné au champagne un caractère de boisson aristocratique. Le prix a un impact, mais c'est aussi un vin de distinction. C'est-à-dire, comme c'était un vin à bulles, une boisson qui n'était quand même pas courante, ça permettait aux amateurs qui pouvaient le consommer de se distinguer par une consommation assez extraordinaire. Et ça aussi, c'est forcément le fait d'une élite. Et cette capacité à se différencier a été exportée auprès d'une élite aristocratique étrangère. Donc, en fait, c'est vraiment le lien qui s'est fait entre l'export et le produit.
Alors, dès son invention au XVIIIe siècle, le champagne, vous l'avez dit, a une image festive, un caractère aristocratique. Les bulles, évidemment, ils sont pour beaucoup. Les rois ont montré la voie, prolongée par le monde du cinéma et du sport, par ensuite le commun des mortels, par vous, par moi. On fête au champagne une naissance, une victoire, un mariage. En revanche, on fait peu sauter le bouchon pour un enterrement. Olivier Gergaud.
Je confirme, absolument, oui, tout à fait. Pour ajouter à ce que vous avez dit, c'est effectivement une stratégie qui a été un peu différente, parce que souvent on établit une notoriété nationale et puis après on s'exporte sur la base de cette notoriété nationale. Et là, c'est l'inverse qui s'est produit en allant chercher dans les différentes cours internationales parmi les élites dans des pays influents une notoriété en développant une réputation qui effectivement a permis à la Champagne de s'établir avant d'autres régions qui aujourd'hui sont des concurrentes et qui ont du mal à rattraper évidemment cet aspect prestigieux qui a été établi durant de nombreuses décennies, siècle. Et donc ça donne un avantage comparatif considérable aux champenois, évidemment. Je pense aussi que la capacité des champenois à aller chercher ces marchés à l'exportation, c'est pas dû au hasard, c'est-à-dire aussi une structuration de la Champagne, donc il n'y a pas un morcellement comme on peut l'observer plus dans des vignobles comme le Bourgogne. On a une concentration quand même avec des grandes marques qui ont la capacité d'accompagner et de développer cette image. Et donc l'émergence du négoce a été aussi un élément clé pour permettre d'établir cette réputation qui tire l'ensemble de la Champagne.
Alors, vous parliez des marques, Olivier Gergaud. Je me tourne vers vous, Claire Desbois-Thibault. Finalement, le champagne aujourd'hui, c'est 300 marques à peu près, et une région finalement assez contenue, donc une très forte concentration.
Oui, alors ça vient du fait que la Champagne a une appellation d'origine qui est commune à toute la production. Champagne, c'est champagne pour tout le monde. Il y a un poids historique très important derrière ça. Il y a eu une histoire qui a été douloureuse et les Champenois ont compris, dans l'entre-deux-guerres essentiellement, que s'il n'y avait pas consensus entre les producteurs de matières premières, c'est-à-dire les vignerons, et les maisons qui produisent et qui vendent, ben on allait à la catastrophe. Et il y a eu à ce moment-là vraiment une volonté de consensus, d'arriver à mettre une organisation au sein de laquelle tout le monde puisse s'y retrouver. Et ça, ça crée des liens très très forts, des liens qui existent toujours, une interprofession que beaucoup envient du fait justement de cette cohésion. Alors, faut pas être naïf, la cohésion elle est pas forcément toujours facile, mais l'objectif est bien là, c'est-à-dire d'essayer de défendre une appellation et que chacun puisse y trouver son intérêt, qu'on soit maison ou vigneron.
Finalement, cette volonté de consensus, elle fait d'une certaine manière, ce que vous évoquez là, la spécificité de la Champagne par rapport aux autres régions productrices de vin. Voilà, donc on ne peut pas comparer les uns les autres, Olivier Jadot.
Je pense effectivement que l'ancien secrétaire général, pour juste prendre un exemple du CIVC, Jean-Luc Barbier, comité interprofessionnel des vins de Champagne.
Désormais appelé comité Champagne.
Absolument. Donc ce comité, effectivement, était dirigé auparavant par un juriste. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Effectivement, il y a un effort colossal qui a été développé pendant de nombreuses décennies pour éviter que la Champagne soit copiée d'une quelconque manière. Ça va d'autres vins qui peuvent être produits dans des communes portant le même nom en Suisse, par exemple, la petite commune de Champagne qui fait des vins blancs, ou alors certains producteurs de parfums qui pouvaient éventuellement tenter d'utiliser la marque Champagne, enfin le nom Champagne, donc une très très forte protection, qui porte ses fruits évidemment, parce que il y a un coût économique à tenter d'usurper cette appellation qui effectivement s'est constituée tout au cours du XXe siècle et qui a permis effectivement à la Champagne de s'organiser et puis de développer les marchés tout au cours du XXe siècle et notamment après la Seconde Guerre mondiale.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, forte protection, Claire Desbois-Thibault, depuis janvier de cette année, janvier 2016, autorisation a été faite par Bruxelles d'accroître finalement les surfaces de vignes. Est-ce que ça veut dire aussi que la Champagne va être concernée? Est-ce qu'on va planter des vignes pour élargir ce territoire et obtenir par voie de conséquence une présence plus forte et plus importante, Claire Desbois-Thibault?
Alors, le dossier est en cours depuis très longtemps, enfin déjà de nombreuses années. Ça avance tout doucement.
Alors, ça recule parfois aussi.
Ça recule aussi parfois. À l'origine, c'était vraiment un problème juridique parce qu'il y avait quelques villages qui ont justifié de pouvoir rentrer dans cette zone d'appellation et que derrière, il y a eu un certain nombre de problèmes juridiques qui en ont découlé. L'idée aussi, c'est que la Champagne produise peut-être un peu plus, mais tout ça reste quand même circoncis. On ne va pas doubler la production de Champagne, même si il y a une extension de l'air.
Il est question d'accroître la superficie de 1%. Donc, on reste dans quelque chose d'assez modeste, somme toute, Olivier Jergot.
Ben en fait, effectivement, l'autorisation porte, comme vous l'avez rappelé, sur 8000 hectares. Mais ces 8000 hectares ne seront pas planter instantanément, ça serait suicidaire dans la mesure où augmenter en quelques années la production d'environ, on est à 33 000 hectares en Champagne approximativement, 8 000 hectares sur 34 000, c'est une progression colossale, donc la demande actuelle ne permettrait pas d'avaler cette nouvelle offre, et donc l'idée c'est de planter de manière progressive. J'avais il y a quelques années été interrogé par le syndicat général des vignerons sur les conséquences en fait de cette extension. Alors c'est très simple, en matière d'économie, quand vous augmentez l'offre avec une demande qui progresse assez régulièrement, c'est en fonction de la vitesse de progression de l'offre ou de la demande que vous allez avoir un prix qui va soit se stabiliser, augmenter ou diminuer. Donc si la progression de l'aire d'appellation est trop rapide, alors à ce moment-là, les Champenois vont évidemment se retrouver à être obligés de diminuer leur prix du fait que l'offre va être beaucoup plus importante. Et ça, c'est une crainte, évidemment. évidemment au sein de la région. Donc les réactions des viticulteurs suite à cette réunion étaient très claires. C'est-à-dire que, bon, effectivement, c'est assez alléchant de pouvoir augmenter et de pouvoir produire plus et de vendre plus, mais la question, c'est effectivement à quel prix. Hein, et aujourd'hui, comme on voit qu'il y a des stratégies qui sont identiques dans le Prosecco, qui a augmenté son aire d'appellation de manière assez colossale, en chez eux, ça marche. Hein, ça
Prosecco,
marche très, très bien.
Prosecco, effervescent hein. Italien, je pense qu'il va venir un tout petit peu plus tard dans l'émission. Pour juste peut-être, dans l'immédiat, et terminer cette première partie, en fait, j'avais deux questions par rapport à ce qu'on évoquait là quant à l'augmentation de la superficie du vignoble. Il est évident aussi que les conséquences du changement climatique ne sont pas anodines sur la région de la Champagne, avec un climat qui évolue, peut-être des gelées moins importantes, et également qui va permettre peut-être de partir un peu plus loin vers le nord, je pense en particulier à l'Angleterre, où finalement certaines régions vont se retrouver avec les mêmes caractéristiques. Je vais choquer peut-être les personnes.
Pas même caractéristiques, non.
Claire Desbois-Thibault.
Pas même caractéristiques, parce que même si le climat pourrait être sensiblement identique, vous avez un terroir qui ne le sera pas. Même si on a des zones géographiques avec des sous-sols qui peuvent être similaires, le Champagne, toute sa force, c'est l'association qu'il y a eu entre un climat, un terroir, une adaptation des cépages, du choix des cépages, et ça, c'est le travail des hommes. Et ça ne peut pas être reproductible. On peut être proche, et puis après, c'est chacun sa caractéristique. Ça ne veut pas dire que les voisins sont moins bons. Ça veut dire que la Champagne a ses propres caractéristiques.
Alors, justement, pour nos auditeurs qui ne se sont pas forcément encore rendus en Champagne, un climat, un terroir, si on devait les décrire l'un et l'autre, quelques mots sur les caractéristiques pour bien comprendre.
Un climat, c'est le climat semi-continental que on peut avoir, hein. Donc avec les grosses difficultés que ça peut engendrer, puisque une localisation septentrionale, on va rester jusque ce qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'effectivement, peut-être que le changement climatique fera que la Champagne ne sera plus un vignoble aussi septentrional que l'on connaît aujourd'hui. C'est donc un climat qui n'est pas favorable en gros à la vigne, avec des fortes gelées l'hiver, avec des gelées même printanières comme cette année où on a eu quand même un petit peu peur, avec une humidité, enfin des choses, des éléments qui ne rendent pas les choses forcément faciles. Et c'est aussi là le mérite, hein. Faut toujours être en train de voir le passé aussi. C'est le mérite aussi des Champenois, c'est d'avoir réussi à créer un vin de qualité avec un climat qui n'était pas si facile que ça, qui était même un peu contraire. Au niveau du terroir, bon, c'est un vignoble de craie, c'est essentiellement ça qui fait la force et les qualités organoleptiques du vin.
Organoleptiques?
Tous les aspects gustatifs, on va dire. Voilà, en résumé, c'est les aspects gustatifs du vin. Donc, c'est bien l'association de ces deux paramètres qui donne la spécificité du champagne.
Olivier Gerbeau.
Alors, je voulais ajouter quelque chose, parce que Claire Desbois-Thibault mentionnait la notion de terroir. Effectivement, le terroir champenois est très spécifique et très intéressant par ailleurs. Je suis pas un spécialiste de la question, mais on a en plus une grande variété entre les terroirs, les terres de l'Aube, qui sont naturellement assez différentes des terres de la Marne. Donc, on a une très, très belle complémentarité entre les deux styles. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, cet effet de terroir, on a une tendance un petit peu à le massacrer, parce que les microbiologistes ont montré assez récemment que, en réalité, lorsque l'on traitait beaucoup trop intensivement les vignes, on a tendance un petit peu à tuer cet effet de terroir, c'est-à-dire à tuer toutes les petites bêtes qui sont autour dans la terre ou sur la plante, et que de ce fait-là, on a tendance à neutraliser l'effet de terroir. Alors moi, je suis un peu inquiet, si vous voulez, par rapport, on a vu les émissions Cache Investigation, etc., qui montraient que des régions comme la Champagne et des régions comme la région de Bordeaux utilisait de manière assez massive des pesticides dans les vignes. Alors bon, comme on le disait, c'est effectivement compliqué dans un climat comme le nôtre, avec de l'humidité, etc., de pratiquer la vigne. En revanche, il y a un certain nombre de producteurs qui aujourd'hui s'en sortent très bien, en ayant réduit ou éliminé les pesticides, et qui retrouvent ce goût de terroir, en fait. Alors effectivement, pour l'avenir, moi, il me semble extrêmement important que les Champenois se mettent à réfléchir à retrouver cet effet de terroir, mémoire qui, à mon avis, aujourd'hui est largement cachée par tout un tas de produits qu'on va pouvoir utiliser. J'espère que je vais vous faire réagir.
Claire Desmartibaux, mais alors simplement, on n'a plus beaucoup de temps pour cette première partie d'émission. Je vous propose de revenir sur cette question de l'emploi des pesticides, du terroir en Champagne. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Claire Desmartibaux et Olivier Gergaud dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le champagne et les vins effervescents. Y a-t-il de la place pour tout le monde? Nous retrouvons nos invités, Claire Desmartibaux, historienne, exploitante viticole, auteur de l'extraordinaire aventure du champagne, Mouette et Chandon, une histoire de famille, paru aux presses universitaires de France, et co-auteur de Le Champagne, une histoire franco-allemande aux presses universitaires Paris-Sorbonne. Et Olivier Gergaud, économiste, professeur à Kedge Business School sur le campus de Bordeaux et directeur du Wine and Hospitality Research Center. Nous avons terminé, Claire Desmartibaux, la première partie de l'émission sur les notions de climat et de terroir qui font donc la spécificité de la Champagne aujourd'hui. Et Olivier Gergaud laissait entendre une évolution quant voilà, avec les techniques utilisées pour produire aujourd'hui le champagne. Et vous ne sembliez pas tout à fait d'accord sur ce qui était évoqué, notamment à propos de l'emploi de pesticides et des conséquences que cela avait sur la production elle-même. Claire Desmartibaux.
Oui, je ne suis pas tout à fait certaine que ce soit les pratiques viticoles, les façons culturales qui soient ce qui différencie un terroir d'un autre. Je crois qu'avant tout, le champagne, c'est un vin d'assemblage de cru, et que lorsqu'on fait une dégustation de vin clair, c'est-à-dire de vin issu de l'un ou l'autre village, avant que l'on décide quel pourcentage on mettra de l'un ou de l'autre pour faire une cuvée, ce qu'on appelle l'assemblage des vins, on se rend bien compte que les vins qui sont issus de l'un ou de l'autre cru ou terroir n'ont pas les mêmes goûts, n'ont pas les mêmes spécificités, quel que soit le mode de pratique. Alors effectivement, par exemple, l'enherbement a eu quelques influences quand même sur le goût des vins. Mais je pense qu'avant tout, c'est quand même le sol qui fait la différence. Et puis, faut pas oublier quand même qu'avant tout, le champagne est un vin d'assemblage. Et ça, c'est ce qu'est le champagne à son origine.
Alors, le champagne et ses concurrents, les vins effervescents. Je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre. Le champagne, c'est 10% du marché mondial. Mais en 10 ans, la production de vins pétillants a bondi de 40%. Là aussi, je parle toujours sous votre contrôle. C'est vrai que la crise de 2008 a favorisé, d'une certaine manière, l'explosion des concurrents du champagne. Le monde entier s'est mis au vin pétillant. Désormais, une grande partie de la planète produit des vins effervescents. Alors, l'Europe conserve évidemment un poids prépondérant dans la production, 63%. La France vient toujours en tête grâce au champagne, mais elle est talonnée par l'Italie, dont le Prosecco, on l'évoquait très rapidement en première partie d'émission, connaît un engouement exceptionnel. Les Britanniques en consomment désormais davantage que du champagne. Alors, les Italiens ne sont pas les seuls. Il y a aussi les Espagnols avec le cava. Est-ce que ces vins effervescents sont devenus des alternatives au champagne? Et quelles menaces représentent-ils pour le champagne? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Olivier Gergaud.
Je veux bien. Donc effectivement, il y a une progression de ce marché des effervescents. On sent bien qu'il y a une internationalisation du marché, avec effectivement des progressions impressionnantes, par exemple du Prosecco en France, qui a multiplié ses ventes par 3 depuis 2011, quand même sur un pays comme la France, quand même extrêmement impressionnant. Donc on sent qu'il y a une concurrence qui est en train de s'affirmer entre tous ces vins. Une étude récente de deux économistes américains et de Stéphane Marette d'AgroParisTech vérifiait que sur les marchés extérieurs, donc c'est une étude qui concerne les marchés à l'export, et qu'il y avait effectivement une concurrence à la fois entre maisons de champagne, c'est une étude centrée sur le champagne, mais aussi des substitutions qui s'opèrent entre champagne et autres effervescents produits dans d'autres pays. L'idée générale, c'est de dire qu'effectivement la Champagne est un peu en dehors de cette concurrence, c'est un petit peu sur une planète à part. En réalité, cette étude montre très clairement qu'effectivement, il y a des substitutions qui sont à l'œuvre. Alors, ce ne sont pas des substitutions qui sont très fortes, le coefficient est relativement faible, mais est significatif au sens où on a vraiment des consommateurs qui substituent le champagne pour d'autres types de vins. Alors, c'est pas précisé dans l'étude, mais on sent bien qu'effectivement, entre le champagne et le prosecco, il y a beaucoup d'allers-retours, etc., etc. Par exemple, hein, entre le cava et le champagne, ça ne concerne pas évidemment tous les champagnes, mais ça va concerner plutôt les champagnes, on va dire, d'entrée de gamme, qui sont très fortement concurrencés au jour d'aujourd'hui par tous ces vins. Dernier élément, on a quand même une série de mauvaises performances en champagne sur la France, hein, qui peine en fait à progresser. On était en recul depuis pas mal d'années. L'année 2015 s'est bien soldée au niveau du marché français où la champagne reprend des parts de marché. Clairement, on sent, même s'il n'y a pas d'études sur la France, que notamment le Prosecco est en train de prendre des parts de marché et est en train de convaincre une frange significative de consommateurs que c'est une alternative crédible à un certain nombre de champagnes.
Alors, mauvaise performance pour la France, c'est vrai, Claire Desbois-Thibault, que le français consomme moins de champagne aujourd'hui qu'il y a quelques années.
Oui, oui, ça c'est sûr. Le marché français a baissé, peine. C'est le marché qui est plutôt celui des vignerons propriétaires, des vignerons récoltants, puisque l'export est quand même plus le domaine des grandes maisons et qu'effectivement, c'est une période qui est difficile pour les vignerons. C'est un fait. Ce sera peut-être pas toujours comme ça quand même, hein, parce que malgré tout, il y a un effort qui est fait, toujours dans cette perspective de qualité qui fait qu'il y a un moment où ça va ressortir et puis que la crise, on peut espérer quand même qu'elle va pas durer éternellement et que les Français vont se remettre à consommer du champagne, alors peut-être aussi à consommer des effervescents. Hein, je reste convaincue qu'il y a de la place quand même un peu pour tout le monde. Après, il y a effectivement un problème de prix, mais on ne boit pas la même chose non plus. C'est bien ça qu'il ne faut pas perdre de vue quand même.
Donc peut-être davantage que de la concurrence, du complément. C'est vrai que le champagne reste et demeure ce que nous évoquions en première partie de l'émission, une boisson pour de grandes occasions. Les vins effervescents, on les consomme peut-être de façon plus quotidienne. Alors, pour ce qui est de la concurrence, alors on reviendra sur la notion du français qui boit moins de champagne, mais évidemment, du coup, les grandes maisons se centrent davantage sur l'exportation. On parlera peut-être du marché américain, du marché chinois. Qu'est-ce qu'il faut penser de grandes maisons de champagne, pour pas la nommer, mais finalement ce nom est revenu dans la préparation de l'émission, la maison Tétinger qui va investir en Angleterre pour produire des vins effervescents. Maison Tétinger qui est une grande maison de production de champagne. Donc voilà, les uns et les autres ont compris qu'il était important de se positionner sur ces deux pans. Champagne d'un côté, vin effervescent, Olivier Gergaud.
Oui, tout à fait. Bon, c'est effectivement intéressant que des maisons comme Tétinger s'intéressent à des pays comme l'Angleterre et aillent aussi y planter de la vigne et aussi travailler la vigne avec un savoir-faire qui s'exporte. C'est pas les premières fois qu'on voit les champenois s'exporter, puisque ils sont présents dans de multiples pays dans le monde et notamment en Californie avec des Rodrigue Estate par exemple, Chandon Estate qui sont des extensions de ces grandes maisons de champagne. Donc le mouvement continue, effectivement c'est une très bonne chose de pouvoir effectivement diversifier son portefeuille et d'aller avec un savoir-faire produire des vins ailleurs. Clairement ce sont des régions qui démarrent, qui sont plutôt en progression, qui ont besoin aussi d'une expertise qui est effectivement champenoise avant tout, sans vouloir froisser quiconque, mais c'est une très bonne chose.
Claire Desbois-Thibault, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Il y a effectivement un savoir-faire qui a été exporté. Hein. Ça aussi, c'est quand même dans cette perspective du champagne vin d'innovation, je pense que ça s'inscrit aussi, hein, d'avoir cherché à aller produire des vins à l'autre bout du monde. Je tiens à signaler qu'il n'y a pas que la maison Tétinger, puisque il y a peu de temps, Paul-François Vranken a annoncé que Pommery aussi allait produire du champagne en Angleterre. Mais c'est ce que vous venez d'expliquer, c'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui existait. Alors la nouveauté, c'est justement qu'on va... Voilà, oui, c'est l'Angleterre, et surtout, géographiquement parlant, on va au nord du champagne. Là, on revient un peu sur
la question du changement climatique.
Du changement climatique. Je pense que c'est surtout ça aussi qu'on retient dans cette évolution.
Absolument.
Alors, baisse de la consommation de champagne en France, on l'a dit. Sur le continent européen, c'est le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique qui demeurent les premiers importateurs de vin de champagne. Hors Union européenne, les États-Unis, le Japon, l'Australie et la Chine, qu'est-ce que l'on peut dire sur ces grandes destinations d'exportation de vin de champagne, Olivier Gergaud?
Les Chinois ont commencer à consommer du vin, c'est pas nouveau, hein, mais c'est environ depuis une dizaine d'années que les tendances se sont précipitées. Notamment, on a vu l'effet de la consommation des Chinois sur les vins de Bordeaux, qui ont commencé à acheter de manière massive tous ces grands vins,
c'est
et aussi à créer des bulles. Alors, on a la consommation chinoise, évidemment, il y a de la consommation, il y a aussi un effet d'investissement. C'est-à-dire que, après la crise de 2008, le vin, de manière générale, essentiellement le vin de Bordeaux, mais aussi maintenant, un certain nombre de champagnes qui servent, en fait, aux investisseurs à diversifier leur portefeuille. Parce qu'il y a une très faible corrélation, en fait, entre le rendement des actions et le rendement, en fait, des vins. Si vous achetez un vin aujourd'hui et que vous le revendez dans quelques années, il y a un rendement qui est pas forcément celui des actions. Et donc, il y a la place de Hong Kong qui s'est affirmée parce qu'ils ont baissé considérablement les droits de douane. Mmh. Ce qui fait qu'en fait, la place de Hong Kong est un peu l'entrée vers la Chine et beaucoup de vins sont arrivés en Chine, y compris effectivement des champagnes. Alors, les Chinois ont commencé effectivement à consommer ces grands vins avec une culture, on va dire, du vin qui était relativement limitée puisque c'est nouveau pour eux. C'est pas une critique du tout.
Mais ça demande une éducation.
Exactement.
Voilà, oui. Une dégustation gustative. Claire de Loi-Thibault.
Ça demande, oui, effectivement, une éducation gustative. Je reviens à ce que j'ai dit au début. On voit bien, par exemple, vraiment, si on a un regard historique, que les Anglais ont voulu un vin différent parce qu'il y avait une habitude de consommation différente. Alors qu'à la même époque, vous aviez des Russes qui voulaient un vin très sucré. Donc, il y a bien une habitude de consommation qui fait que le champagne n'est pas facile d'accès. Il faut apprendre à découvrir ce que c'est que du champagne. Mais après, rien, ça ne veut pas dire qu'ils n'apprécieront pas comme une dégustation qu'on peut faire aujourd'hui en France. Voilà. Il y a peut-être au départ une consommation d'images, d'imaginaire, qui pousse ces marchés jusqu'au moment où, en fait, ce sera plutôt une dégustation qualitative, je pense. Hein.
Alors, effectivement, si on revient sur le cas de la Chine, donc quand on a des consommateurs qui, comme ça, ne connaissent pas grand-chose au vin, en fait, ils commencent à consommer les choses les plus évidentes, c'est-à-dire les vins qui ont la plus forte notoriété. Donc, le Bordeaux, par exemple, et puis le champagne pour les effervescents. La champagne a la caractéristique actuellement de faire de très bons résultats sur les nouveaux marchés auprès de consommateurs qui sont relativement peu informés et qui débutent, en fait, la consommation de vins effervescents.
C'est le cas aussi des États-Unis, ils me pardonneront les Américains, mais c'est vrai que le champagne est venu est allé là de
c'est
façon...
C'est plus ancien aux États-Unis et puis c'est très très marqué, si vous voulez, on va avoir des villes comme New York où on va avoir des consommateurs qui sont extrêmement informés et vous allez retrouver sur des villes comme New York énormément de petits producteurs de très haute qualité qui se sont imposés au même titre que des grandes marques. Hein. C'est impressionnant ce que l'on peut trouver comme petite marque très très bien positionnée à côté des grandes marques. Et puis le reste des États-Unis, évidemment, bon, les Américains ont une connaissance beaucoup plus fine que les Chinois, ont beaucoup plus d'avance en matière de consommation de vin. D'ailleurs, c'est un pays qui produit beaucoup et qui produit de plus en plus de vin, et ce qui permet aux Américains de se faire une culture, de progresser dans la matière.
Il y a l'Afrique aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que là également, dans la préparation de cette émission, j'ai vu que le Nigeria était particulièrement consommateur de champagne, et tout cela vient aussi progressivement. Ce sont ces maisons de champagne
tout
qui conquièrent de nouvelles terres. Juste pour comprendre et revenir à la question des vins effervescents, finalement, ce qu'il faut enregistrer aussi et bien comprendre, c'est qu'il y a une évolution dans les pratiques, c'est-à-dire que le champagne, c'est quelque chose un petit peu à part. Et la notion de bulle dans le quotidien est quelque chose qui évolue et qui se généralise, Claire Desbois-Thibault.
Alors, la bulle en elle-même, c'est ce qui a fait le premier succès du champagne. D'ailleurs, c'est ce qui fait que le champagne est un vin de la célébration, vin de la convivialité, vin de la fête. Vous faites l'expérience, vous faites sauter un bouchon, tout de suite, les langues se délient. Enfin voilà, c'est la joie qui apparaît. C'est le mythe, c'est justement tout ce vin de la fête. Hein. C'est comme ça qu'on qualifie le champagne.
Olivier Jargot.
Alors, le marché des effervescents est en progression. Hein. On a un marché du vin qui ne suit pas tout à fait la même tendance, mais par contre, le marché des effervescents, lui, explose. Donc, effectivement, il y a des choses à faire. Alors, pour terminer le point juste précédent, ce que je constate, c'est quand même que les champenois font de très très bonnes performances sur les marchés émergents, c'est-à-dire les nouveaux marchés, et peinent en fait à convaincre et sont plutôt en recul sur les marchés matures. Bon, si on prend l'exemple de la France, alors je pense que ça, il faudrait qu'effectivement il y ait une réflexion au niveau de la Champagne, parce que si on peine à convaincre un peu des consommateurs mieux informés, c'est sans doute qu'il y a des choses peut-être à changer au niveau du champagne.
À commencer par les questions économiques, c'est cela qu'il faut entendre.
Certains disent aussi que c'est une question d'étiquetage, d'approche plutôt marketing. Il arrive un moment où il y a tellement d'informations sur une étiquette que le consommateur, il ne sait plus très bien où il en est. Ça fait partie aussi, des directions de recherche qu'un certain nombre de champenois ont. Alors moi, de là avoir un avis, je pense que ce n'est pas tout à fait ma place pour m'exprimer là-dessus. Mais effectivement, il y a certainement quelque chose à faire auprès du consommateur français.
Olivier Gergaud.
De manière générale, je pense qu'effectivement, les parts de marché qui échappent aux champenois aujourd'hui en France sont prises par des effervescents, soit français, crémants, ou alors des effervescents type Prosecco. Donc, ce qui veut dire que le consommateur a tendance à juger que certains champagnes, qui sont pour eux des substituts naturels des Prosecco et des crémants, ne sont plus tout à fait, en fait, avec un bon rapport qualité-prix. Donc, quelque part, pour améliorer son rapport qualité-prix, il y a deux techniques, soit on baisse le prix ou on améliore la qualité. Et ça, je pense que si les champenois veulent retrouver des parts de marché, il faut absolument qu'il y ait un effort. Il y a eu un effort
sur la qualité, la valeur.
Il faut éviter la langue de bois. Mais oui, je crois qu'effectivement, un certain nombre de champagnes aujourd'hui sont produits et ne valorisent pas, en fait, l'appellation au sens général. J'ai eu l'occasion de déguster un effervescent qui est produit juste de l'autre côté de la frontière d'appellation, dans un petit village de l'Aisne qui s'appelle Craon. Alors c'était particulièrement intéressant parce que la qualité était tout à fait acceptable, hein, et en fait le prix de cette bouteille était de 6 euros. Donc on est un petit peu loin quand même du prix d'entrée de gamme du champagne pour un produit qui était tout à fait comparable en réalité. Alors évidemment, le fait que l'appellation soit extrêmement limitée fait que la restriction de l'offre fait que les prix sont élevés, du fait d'un prix du raisin qui est aux alentours de 5-6 euros le kilo de raisin, qui coûte cher. Et donc, par conséquent, on est dans un rapport qualité-prix pour ces champagnes d'entrée de gamme qui n'est pas forcément optimal.
Alors, ce sera peut-être pour terminer cette émission, Claire Desbois-Thibault, qu'est-ce que cela vous inspire, nécessité de remise en question sur un certain nombre de points de la région de Champagne dans sa production pour alimenter et ajouter de l'eau au moulin d'Olivier Gergaud? Là aussi, en préparant cette émission, j'ai vu que très récemment, dans une dégustation à l'aveugle où un public déterminé avait à apporter sa préférence sur tel ou tel vin pétillant. Et finalement, ça n'est pas le champagne qui l'a emporté, mais c'est un vin pétillant anglais.
Je pense qu'il faut absolument que les champenois aient le respect de leurs concurrents, ou tout ça comme on veut. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Il faut reconnaître qu'il y a des très bons vins effervescents qui se font à côté,
et
par ailleurs,
et tant mieux.
Bon, ça, c'est un fait. Après, c'est aussi stimulant pour les champenois, c'est-à-dire que on veut et s'il faut conserver cette notoriété de 150 ans d'histoire, eh bien, il faut toujours viser mieux, produire mieux, il faut viser la qualité. C'est ça qui fera, de toute façon, c'est ça qui fait la différence. C'est pas le volume, c'est certainement la valeur le travail qui est fait tout autour de ce vin. On a dit au cours de cette émission que le champagne était un vin d'innovation. Ça doit être toujours le cas et je pense que ça l'est. Effectivement, enfin les travaux qui se font actuellement sur la qualité des vins, sur la bulle, même sur tout ce qui tourne autour du vin, sur notamment le poids de la bouteille qui a été réduit, qui est dans une perspective effectivement de protection environnementale, puisque les transports sont forcément moins conséquents dès lors que les bouteilles sont plus légères. Enfin, tout ça fait partie de la direction que doit et que prend la Champagne.
En tout cas, voilà, conclure, c'est peut-être une évolution permanente et rien n'est figé sur ces notions en deux mots, Olivier Gergaud.
Effectivement, on est en train de constater que le marché des effervescents est en train de se mondialiser avec de la concurrence plus forte. Les champenois l'ont à l'évidence compris. Moi, je suis plutôt optimiste pour que les champenois, qui ont toujours été très très innovants, puissent effectivement demain proposer des produits qui vont convaincre les consommateurs français et à l'étranger.
En tout cas, c'est un vrai sujet de géopolitique. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités. Claire Desbois-Thibault, historienne et exploitante viticole, auteur de L'extraordinaire aventure du Champagne, Moët et Chandon, une histoire de famille, paru aux presses universitaires de France, et co-auteur de Le Champagne, une histoire franco-allemande aux presses universitaires Paris-Sorbonne, et Olivier Gergaud, économiste, professeur à Kedge Business School sur le campus de Bordeaux, directeur du Wine and Hospitality Research Center et membre du LIEP Sciences Po. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.